Une feuille. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Le beau temps de Marilyn Débiol.
J'ai apporté avec moi La route des Flandres de Claude Simon. Il tenait une lettre à la main. Il leva les yeux, me regarda, puis de nouveau la lettre, puis de nouveau moi. Derrière lui, je pouvais voir aller et venir passer les taches rouges acajou ocre des chevaux qu'on menait à l'abreuvoir. La boue était si profonde qu'on enfonçait dedans jusqu'aux chevilles. Mais je me rappelle que pendant la nuit, il avait brusquement gelé et Vac, entrant dans la chambre, emportant le café, disant « Les chiens ont mangé la boue ». Je n'avais jamais entendu l'expression. Il me semblait voir les chiens, des sortes de créatures infernales, mythiques, leurs gueules bordées de roses, leurs dents froides et blanches de loup, mâchant la boue noire dans les ténèbres de la nuit. Peut-être un souvenir. Les chiens dévorant, nettoyant, faisant place nette. Maintenant, elle était grise. Et nous nous tordons les pieds en courant, en retard comme toujours pour l'appel du matin, manquant de nous fouler les chevilles dans les profondes empreintes laissées par les sabots, est devenu aussi dur que de la pierre. Et au bout d'un moment, il dit « Votre mère m'a écrit ». La route des Flandres de Claude Simon. C'est lui qui m'a donné le... Entre autres, c'est lui qui m'a donné cette liberté de... je pense d'association. Sorte d'association libre entre des choses qui paraissent éparses, mais qui, par la... par l'écriture, peuvent s'accorder et former quelque chose d'encore nouveau. Claude Simon, c'est comme... c'est comme une permission, quelque chose qui m'était ouvert, donné.
C'est important d'avoir un maître ?
Ah oui, c'est très important, oui.
Vous en avez eu d'autres ensuite ?
Mais je crois que j'ai eu des maîtres aussi dans d'autres disciplines, dans la peinture. Moi, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, la peinture. Alors, ça, il y a eu des maîtres différents à différentes époques, mais la peinture, c'est vraiment une expérience d'ouverture au monde, oui. Et comme par hasard, c'est très important aussi chez Claude Simon. Je pense qu'il y a eu cette rencontre-là aussi.
Alors, on va voir qu'il n'y a pas que la peinture, il y a aussi le cinéma. On va vous entendre, Marilyn Débiol, lire les premières pages de Le beau temps, votre nouveau roman qui paraît aux éditions Seuil pour la rentrée littéraire.
L'Ariane est une donneuse. L'Ariane, la banlieue à l'est de Nice, est une donneuse de nom. Ariane, en tout premier. Ariane... Maurice Jaubert. Maurice Jaubert est le nom du collège de l'Ariane où je suis invitée pour parler avec les élèves d'un de mes livres qui met leur quartier en scène. Les élèves ont dessiné sur le sol de la classe un parcours de galets cueillis dans le lit du Paillon, fleuve presque toujours à sec, fleuve Oued, dont il est fait grand cas dans le livre et qui borde l'Ariane. Je me rappelle bien ces petits cailloux entre lesquels je me tiens pour répondre aux questions. Je ne sais pas qui est Maurice Jaubert. Je ne sais pas qu'il est un compositeur de musique et qu'il est né à Nice, ce qui vaut à son nom d'apparaître sur la façade d'un collège qui est niçois et qu'il est si peu. L'Ariane n'est pourtant pas une cité grise. Elle a le même ciel que Nice, le même beau temps. Je ne sais pas non plus qui donne leur nom aux écoles ni de quelle manière on les choisit. Mais que le collège, bien tenu, vaste, clair, au cœur d'une poussée d'immeubles sans grâce, mais que le collège de l'Ariane, classé en zone sensible, porte le nom de Maurice Jaubert, n'est peut-être pas insignifiant. Quand bien même Jaubert est issu de la bonne bourgeoisie niçoise, qu'il est un catholique fervent et pratiquant. Tous ceux qui ont connu Jaubert parlent de sa noblesse et de son empathie, de son engagement. Il ne faut pas avoir peur du mot. Son engagement est à l'œuvre d'abord et surtout dans la musique qu'il écrit pour le cinéma, la musique dite populaire, c'est-à-dire pour tout le monde. Une musique populaire qu'il s'agit de réinventer, comme il l'écrit dans la revue Esprit d'octobre 1934. Je ne sais pas qui est Maurice Jaubert, son nom me dit pourtant quelque chose. S'il me retient autant, c'est que je le reconnais, mais impossible de savoir où je l'ai connu. Je l'oublie. Quelques mois plus tard, je revois un film de Truffaut que j'aime beaucoup, La Chambre verte. C'est même le film de Truffaut que je préfère. Le réalisateur y tient le rôle de Julien Daven, un veuf inconsolable qui ne fait le deuil d'aucun de ses morts. À commencer par ses camarades de la guerre de 1914, dont des images d'archives mêlées à la musique de Maurice Jaubert ouvrent le film. C'est le quatrième film et le dernier pour lequel Truffaut a fait adapter la musique de Jaubert que, tout jeune, il a découverte dans Zéro de conduite et L'Atalante de Jean Vigo. Daven a composé une chapelle où les photos de ses morts sont animées par des centaines de flammes de bougies, comme la caméra qui capte la lumière anime les vivants. Tout film n'est-il pas une chapelle ardente ? Le vivant y est fixé dans son mouvement et la mort n'y pourra rien. Brouillage des frontières. Dans la chapelle, Truffaut a marié des photos de vivants et de chers disparus. Parmi eux, Maurice Jaubert en chef d'orchestre. C'est une photo extraite du film où apparaît Jaubert qui joue le rôle du chef d'orchestre quelques jours avant de partir pour le front, Nuit de décembre de Kurt Bernard. Il sortira en France en février 1941, après la mort de Jaubert. Il a les bras levés, gros plan sur son beau visage, grave, aux traits réguliers. Je me demande si je n'écris pas ce livre à cause de ce visage. J'ai vu La Chambre verte plusieurs fois, mais il m'aura fallu cette rencontre au collège de l'Ariane pour que se fixe en moi son nom qui apparaît au générique et sa photo dans la chapelle. J'écoute la musique de Jaubert, qu'elle soit de cinéma ou pas, tout ce que je peux trouver. Je vois tous les films, j'observe les photos, les partitions, je lis tout, les archives, les innombrables lettres. Je l'oublie de nouveau dans la douceur réconfortante des bibliothèques. Une nuit, il se rappelle à moi. Je rêve que je marche avec lui. Il me tient par la main. Je ne sais rien de sa vie ni de sa mort. Je marche avec lui. Je marche avec lui comme s'il n'était pas mort, comme si je ne connaissais pas la fin. Je marche aussi avec sa mort. Au début du mois de juillet, les genêts font un mur épais, odorant et jaune, bien entendu. Là-bas, là derrière, entre le bout du champ et le pied des buttes de marne grise. Butte ou dune, c'est selon la lumière, mais de toute façon aride absolument. Lorsqu'à partir de décembre 1923, Maurice Jaubert assure la chronique de la quinzaine musicale à Paris pour le Petit Niçois, c'est sous le pseudonyme de Maurice Gineste. Gineste est le nom d'une maison familiale au plan de grâce. Familiale, familier aux oreilles niçoises, Saint-Antoine de Ginestière, Lou Gineste, le genêt. Il m'est impossible de me rappeler l'odeur des genêts. Je me rappelle l'odeur des lilas en l'absence des lilas, l'odeur des roses en l'absence des roses, mais celle des genêts, non. Trop étrange, trop composite. Elle nous prend toujours par surprise, au dépourvu. Elle est si prenante, en effet, qu'elle supplante la couleur pourtant vigoureuse de la fleur, une odeur sucrée mais enhardie par une note qui résiste aux mots. Je cours jusqu'au bout du champ pour vérifier une fois de plus sa résistance. Il fait très chaud sous un ciel d'orage, la couleur éclate. Si c'était le jaune qui avait pénétré le parfum, pas l'acide du jaune mais sa vivacité. L'odeur du genêt est jaune. Maurice Jaubert se tourne vers les genêts de l'arrière-pays de Nice et au-delà vers les montagnes. D'un côté la mer, qui donne son tempo à la ville. De l'autre, les mouvements des grandes vagues, dont les sommets d'écume blanche dépassent souvent les 3000 mètres. Maurice Jaubert naît avec le XXe siècle. Au moment où on commence d'explorer ces sommets, où on commence de les nommer comme les pas, les baisses, les pointes, la montagne tout entière, qui jusque-là était aussi anonyme que les bergers, les chasseurs, les soldats ou les contrebandiers qui seuls la fréquentaient. Victor de Cessol, le chevalier de Cessol, est le premier explorateur connu des cimes des Alpes-Maritimes et de l'Argentera, côté italien. Avec ses guides fidèles, qui laisseront aussi leur patronyme à la montagne, Plainte ou Guigot, il ouvre des voies dans l'inconnu auxquelles il donne des noms après l'avoir amadoué à main nue, chaussé de brodequins cloutés et muni d'une corde de chanvre. Chevalier n'est ici qu'un titre de noblesse, juste au-dessous de celui de baron, mais pour un jeune garçon de la trempe de Maurice Jobert, il ne fait pas de doute que la montagne a adoubé Victor de Cessol, dont l'engagement au sein des œuvres caritatives niçoises ne doit pas être ignoré du jeune Maurice, pas plus que sa grande érudition. Cessol lèguera sa magnifique bibliothèque à la ville. En devenant membre du club alpin français des Alpes-Maritimes, dont Cessol est le président, il ne fait pas de doute que le petit Jobert, il a quel âge ? 13 ? 14 ans ? Rêve de faire partie d'une noblesse qui ne doit rien à la naissance, d'un ordre qui se mérite. En écrivant le mot « ordre », je pense aussi à la foi de Maurice Jobert. J'ai toujours trouvé assommant, lourd, pour ne pas dire suspect, ce rapprochement entre l'alpinisme et la quête spirituelle. Mais comme il s'agit de Jobert, comme il est si jeune, éternellement semble-t-il, si joli avec ses cheveux bien lissés, sa raie très dessinée, son profil net, comme il est si fervent, je veux bien le suivre, quitte à ne pas être très assuré. Il a quel âge ? 13 ? 14 ans ? Toutes les fins de semaine, comme on dit alors, il se rend à la montagne. Les autres jours, il raconte ses aventures aux camarades du lycée, qui ne s'appellent pas encore Masséna, et ce sont bien des aventures. La montagne est presque encore intouchée comme la neige. La première station de ski est ouverte en 1909, à Peracava. Ce n'est pas très loin de chez moi, un peu plus haut. La station de ski a périclité depuis. Maurice Jobert y est certainement allé avec le club alpin français. Il y aura suivi Victor de Cessol dans des randonnées à ski, exaltantes, aux Granges du Lac, à la Croix de Peracava, dans la forêt de la Maïris, à la cime du Prat de la Cour. Le garçon est suspendu comme un petit ange au-dessus des saloperies du monde. Il aura le temps de se mêler, ce qu'il fera généreusement, sans réserve, sans craindre les abruptes, les territoires inexplorés, endossant le risque de tomber. Je regarde deux photos de Maurice Jobert à la montagne. Une ascension en 1915 et au glacier du Clapier en juillet 1918. Tantôt il est assis sur une grosse pierre, accompagné de deux garçons de son âge. Tantôt il est debout et regarde la vastitude. Dans les deux cas, il porte une tenue de ville, chapeau de feutre mou, chemise, cravate et veste boutonnée, comme on s'habille à l'époque pour grimper sur la montagne ou pour faire du ski, de la même manière que pour aller au lycée ou marcher sur la promenade des Anglais, hormis les chaussures à clous, chaussures à tricounis, qui sont des clous en acier à pointe antidérapante, inventés quelques années auparavant, en 1896, par le bijoutier genevois Félix Gennecamp, adepte des ascensions du Mont Salève, et qui en eut l'idée en voyant un de ses amis mourir lors d'une chute causée par de mauvaises chaussures. Maurice Jobert est né avec le XXe siècle, le 3 janvier 1900. Né avec le siècle IX, il semble destiné aux choses neuves, tricounis comme cinéma. Lui-même a l'air neuf, net et propre, comme un sous-neuf. Un de ses amis du lycée aurait dit de lui qu'il était un peu trop bon élève. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Je voudrais entendre à nouveau, à neuf, le vers trop connu de Rimbaud, entendre sa légère mélancolie. On n'est pas sérieux, mais grave, oui. Un peu trop bon élève. La phrase me touche, subtilement fielleuse peut-être, quand il est de bon ton pour un artiste d'être un cancre, de traiter l'étude par-dessus la jambe. Il n'a d'ailleurs pas 17 ans quand il quitte le lycée. Il obtient le bac en 1916, monte à Paris en septembre de la même année pour suivre à la Sorbonne des études de lettres et de droit. Il sera à 19 ans le plus jeune avocat de France. J'imagine le garçon, appliqué, fiévreusement appliqué. Il ne peut rien faire à demi, déjà, ni l'alpinisme, ni ses devoirs. Il ne pourra rien faire à demi, ni la musique, ni la guerre pour finir. Et le cœur se serre un peu.
Maurice Jobert m'accroche par Maurice Jobert. Par aussi le personnage qu'il est, par sa beauté, par le fait qu'il a une beauté du Sud, par sa droiture, et bien entendu aussi par sa musique qui quant à moi, me fait pleurer. Et par l'accord qu'il a trouvé avec le cinéma, c'est-à-dire quelque chose que j'ai essayé à ma manière que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de créer une arabesque qui est, comme il le dit lui-même, qui est en retrait. J'essaie moi-même de me tenir en retrait de Maurice Jobert, mais qui a qui est une arabesque propre malgré tout, qui existe quand même. Et c'est la leçon peut-être de la musique de cinéma qu'a inventée, me semble-t-il, Maurice Jobert, c'est de créer une arabesque en retrait et qui soit, mais qui existe profondément. J'ai trouvé le titre, alors que ce n'est pas toujours le cas, avant d'écrire le livre au fond. Donc, en effet, le beau temps est ce qui nous... C'est ce beau temps partagé que nous partageons, Maurice Jobert et moi, pour commencer, puisqu'il est, né à Nice et que j'y vis. Et c'est ce beau temps aussi auquel on croit malgré tout. Malgré toute la dureté du siècle, des années 30, mais aussi de notre temps, avec Maurice Jobert, j'ai eu le sentiment de pouvoir croire au beau temps. Parce que le beau temps, c'est vrai que quand on a eu l'expérience du beau temps méditerranéen, de ce beau temps à Nice, la lumière est magnifique, mais en même temps, elle est tragique. On ne peut pas la regarder. C'est une lumière, comme l'a dit Picasso, c'est une lumière noire. Donc il y a cette joie, au fond, que cause le beau temps, et en même temps, ce tragique qui n'est jamais loin. J'ai écrit en permanence, en entendant, en écoutant, en entendant, je dirais, même Maurice Jobert, parce que là aussi, comme dans les films, c'est une musique qu'on oublie. Alors c'est Intermède, qui est une musique qui existe en soi, parce que Maurice Jobert a aussi écrit des musiques libres, qui ne sont pas des musiques ni de cinéma ni de théâtre, mais qui a été adaptée par François Truffaut pour L'homme qui aimait les femmes. Comme il le dit, on ne va pas au cinéma pour entendre de la musique, mais elle s'imprime en vous.
C'était Marilyn Desbiol qui présentait son roman Le Beau Temps, qui paraîtra aux éditions du Seuil.
Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Jean-Louis Deloncle,